RFI, 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure d'information consacrée à l'actualité française.
Christophe Paget.
À la une, le Sénat français qui adopte une loi pour réhabiliter les femmes condamnées pour avoir avorté illégalement avant la dépénalisation de l'IVG en 1975. C'est une façon de dire que la honte doit changer de camp, que les lois qui avaient cours avant 1975 étaient criminelles, explique l'ancienne ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol. Olivier Grondeau est libre. Après plus de 2 ans de détention en Iran, un autre Français assigné à résidence a quitté le territoire iranien la nuit dernière. Le dessinateur Jules dénonce une censure du ministère de l'Éducation nationale qui annule les 800 000 exemplaires de La Belle et la Bête qu'elle lui avait commandés pour les CM2.
24 heures en France.
Dans une dizaine de minutes, rendez-vous avec la chanteuse franco-vénézuélienne La Chica. Et puis à la une du journal de l'Outre-mer, les enseignants guadeloupéens mobilisés contre les suppressions de postes.
RFI.
Mais on commence par du football. Déception pour l'équipe de France. Les Bleus ont été battus 2-0 par la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations. Une rencontre qui avait lieu à Split où l'on retrouve Cédric De Oliveira. Cédric, match manqué par l'équipe de France qui compromet beaucoup ses chances de qualification pour la suite de la compétition.
Oui, bonsoir Christophe. Effectivement, les Bleus qui vont regretter longtemps leur première période complètement manquée. Au bout de 5 minutes de jeu, un pénalty était sifflé en faveur de la Croatie pour une main dans la surface de Konaté. Mais la tentative de Kramaric a été repoussée du pied par Mike Maignan. Danger seulement écarté parce que l'équipe de France a été complètement dépassée dans le jeu par des Croates plutôt habiles techniquement. Et cette équipe de France a bien la cédé une première fois juste avant la demi-heure de jeu sur une tête de Boudimir. Et malgré quelques tentatives, je m'excuse quand même pour les klaxons, on n'est pas loin du stade, malgré quelques tentatives de Mbappé, elle a fait preuve de beaucoup d'inefficacité, elle a fini par encaisser un deuxième but d'Ivan Perisic, une belle reprise du pied droit, impuissant, les Bleus sont rentrés au vestiaire en étant menés 2-0, et même si les 45 minutes suivantes ont été un petit peu de meilleure facture, l'équipe de France n'a jamais réussi à inverser la tendance, plus de détermination, mais toujours aussi peu de précision, Mbappé, Dembélé, Rabiot, les Bleus ont tout tenté pour revenir dans ce match, mais ils repartent de Split avec une nette défaite 2-0. Il faudra faire beaucoup mieux dimanche au Stade de France pour inverser la tendance et arracher sa qualification pour le Final Four de cette Ligue des Nations.
Merci Cédric De Oliveira.
24 heures en France.
Ce jeudi, le Sénat a adopté une loi pour réhabiliter les femmes condamnées pour avoir avorté illégalement avant la dépénalisation de l'IVG en 1975. Mieux vaut tard que jamais. Cette loi mémorielle arrive 50 ans après le vote de la loi Veil, qui dépénalisait donc l'interruption volontaire de grossesse. Le texte reconnaît les souffrances de ces femmes contraintes aux avortements clandestins. Il crée aussi une commission destinée au recueil et à la transmission de leur mémoire. Fait rarissime, le texte a été adopté à l'unanimité par les sénateurs et il est très bien accueilli par les premières concernées. Reportage Baptiste Coulon.
Edith a 22 ans quand elle avorte clandestinement dans un hôpital en 1970.
Une blessure qui n'arrive pas à cicatriser complètement. J'y pense très très souvent.
De retour chez ses parents, une lettre lui parvient quelques jours plus tard.
Une convocation du commissariat, affaire vous concernant. Mes parents n'étaient pas du tout au courant et j'étais obligé de raconter le souci que j'ai eu. C'était pas évident. Hein.
L'homme qui l'a fait avorter est poursuivi et jugé devant un tribunal, tout comme Edith. Un procès d'une demi-journée dont la sentence tombe le soir même.
Un mois avec sursis et 1000 francs d'amende.
Alors 50 ans après, il n'est pas trop tard pour cicatriser les plaies. Cette adoption du Sénat, Edith, l'accueille avec soulagement.
La reconnaissance, l'apaisement. L'apaisement, la tranquillité de l'esprit par rapport à ce que j'ai fait ou ce que j'ai fait faire.
Ce vote est un pas de plus, un an après l'inscription dans la Constitution française de la liberté de recourir à l'IVG et une façon pour la France de montrer la voie, estime Sarah Durocher, présidente du planning familial.
La France est beaucoup regardée sur l'avortement, on le sait. Le sujet de l'avortement est un sujet qui peut régresser tellement vite. On le voit en Pologne, on le voit en Italie. Tout ce qui peut amener la dignité aux personnes qui ont avorté est bon à prendre.
Prochaine étape, un vote de l'Assemblée nationale où le texte devrait trouver une majorité sans difficulté.
Un reportage signé Baptiste Coulon. Le Français Olivier Grondeau est libre. Il était détenu depuis près de 2 ans et demi en Iran, tout comme Cécile Kohler et Jacques Paris, toujours incarcérés en Iran. Le sort d'Olivier Grondeau était mêlé à d'intenses négociations entre Paris et Téhéran. Les Occidentaux sont notamment au plein bras de fer avec l'Iran au sujet de son programme nucléaire. Cette libération est donc une grande surprise pour les proches d'Olivier Grondeau, dont son ami Tristan Bultiau.
Nous, on ne se doutait de rien puisqu'on a un appel hebdomadaire le lundi. Souvent, il y a des problèmes techniques qui font qu'ils n'appellent pas. C'était un de ces lundis et finalement, c'était pas un problème technique, c'est qu'il est en rapatriement. Il est allé directement à l'hôpital et on ne l'a su que quelques jours ensuite. Sa maman nous a essayé de nous contacter, mais en ne disant rien. Quand on a lu le message vocal laissé sur notre répondeur, eh bien, c'était pas la voix de Thérèse, c'était la voix d'Olivier qui nous disait « je suis de retour ». Et du coup, oui, c'est vraiment d'être mobilisé si longtemps et si complètement pour une situation si extrême, et du jour au lendemain, sans préavis, que tout change, qu'il soit de retour, c'est très particulier, c'est un peu irréel. C'est un grand soulagement, même si ce grand soulagement est un tête tristesse, parce qu'on aurait aimé qu'il ne rentre pas seul et qu'il rentre avec Cécile et Jacques.
Et un deuxième Français qui était assigné à résidence a pu quitter le territoire iranien la nuit dernière. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a indiqué que les portraits des deux Français encore emprisonnés en Iran allaient être accrochés aux grilles de l'Assemblée nationale. 10 ans de prison ferme contre Boualem Sansal. C'est la peine requise par un tribunal près d'Alger contre l'écrivain franco-algérien emprisonné depuis 4 mois. Boualem Sansal, connu pour ses critiques du pouvoir algérien, est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Son avocat dénonce un procès fantôme, tenu dans le plus grand secret, sans défense. L'affaire Sansal a aggravé encore plus des relations franco-algériennes déjà tendues. Les députés français auditionnaient aujourd'hui des collectifs de victimes de l'enseignement catholique. Après les révélations de violences physiques et sexuelles de l'établissement Bétarame, près de Pau, dans le sud-ouest de la France, d'anciens élèves de pensionnats privés partout en France sont sortis du silence. 8 d'entre eux ont répondu aux questions de la commission d'enquête parlementaire créée pour faire la lumière sur les défaillances des autorités. Amélie Beaucourt.
Est-ce que vous-même, comme victime, ou certains membres de vos collectifs, est-ce qu'ils ont cherché de l'aide à l'époque où ils étaient victimes?
Question du député Paul Vanier. Sa commission cherche à comprendre l'omerta autour de ces violences. Réponse de Bernard Lafitte, 77 ans, ancien élève d'un internat pour garçons.
Personne n'en parlait, y compris entre nous, on n'en parlait pas. Moi, personnellement, mes parents sont morts, ils ne l'ont jamais su. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon épouse, il y a maintenant, on va dire, 3 semaines. Après 50 ans de mariage.
Prisonniers de la loi du silence, les élèves avaient-ils d'autres moyens d'échapper aux sévices?
Est-ce qu'il y avait des enfants qui s'échappaient, qui fuyaient? Par qui étaient-ils rattrapés? Est-ce qu'il y a eu une réaction avec l'accumulation, par exemple, de fugues?
Cette fois, c'est Evelyne Lebris, 78 ans, qui prend la parole. Scolarisée dans un pensionnat pour filles tenu par des religieuses.
Pendant toute la nuit, avec les chiens bergers allemands, on était conviés à passer dans tous les bosquets, dans tous les jardins, pour savoir s'ils n'étaient pas montés en haut d'un arbre pour se cacher.
Elle marque une pause, les larmes aux yeux. C'est en tentant de s'enfuir qu'une jeune fille trouvera la mort dans les années 60.
C'est difficile parce que je parle au nom de toutes les copines. Et voilà. Alors, je vous parais peut-être un petit peu excessive.
Pas du tout, Madame Lebris.
Mais je suis en colère.
Une autre victime conclut, l'ultime violence, c'est d'entendre « on vous croit, mais vous n'aurez jamais droit à la justice car vous vous êtes manifesté trop tard ». Les associations demandent donc l'imprescriptibilité des violences commises sur les enfants.
Un reportage d'Amélie Beaucourt. Affaire Le Squarneck, le chirurgien pédocriminel actuellement jugé à Vannes, dans l'Ouest, a reconnu pour la première fois sa culpabilité pour l'intégralité des victimes. C'est ce qu'a annoncé un de ses avocats. Par ailleurs, une nouvelle enquête préliminaire est lancée pour identifier d'autres victimes de Joël Le Squarneck. Et puis plus de 20 jeunes migrants qui avaient participé à l'occupation de la salle de la Gaîté Lyrique à Paris, évacuée mardi par les forces de l'ordre, font l'objet d'une obligation de quitter le territoire, selon le collectif des jeunes du parc de Belleville. La police a modifié l'âge des jeunes pour les placer sous OQTF, a déploré le délégué du collectif. Après l'accusation hier, la parole était à la défense, ce jeudi, au procès des geôliers du groupe État islamique. Mehdi Nemouche est poursuivi avec ses 4 co-accusés pour son implication présumée dans la séquestration d'otages occidentaux en Syrie entre 2013 et 2014 et les actes de torture et de barbarie qu'il leur aurait infligés. Hier, le parquet a requis contre lui la réclusion à perpétuité. Son avocat a aujourd'hui soutenu que les ex-otages qui l'ont reconnu comme un geôlier particulièrement sadique font erreur. Laura Martel.
La défense de Mehdi Nemouche a pu surprendre, paraître trop agressive, irrationnelle parfois, concède Maître Villemain. Mais l'avocat l'affirme, ce n'est pas une défense complotiste, comme a pu la qualifier l'accusation, mais une défense totale, nécessaire, dit-il, face au poids écrasant des parties civiles dans ce procès où toute la presse française est au soutien corporatiste des victimes journalistes. Si Medine Mouche a reconnu avoir combattu en Syrie, il nie avoir été un geôlier tortionnaire, comme l'attestent pourtant les ex-otages. Mais pour Maître Vulmin, ces victimes sont passées, au cours des 10 ans d'enquête, du doute à la certitude absolue par des reconstructions a posteriori, à force de partage d'informations, mais aussi sous l'impulsion d'enquêteurs dont les méthodes malhonnêtes visaient à identifier à tout prix Medine Mouche comme le geôlier Abou Omar. Mais Abou Omar n'existe pas, c'est une figure kaléidoscopique créée à partir de plusieurs gardiens par des victimes en quête de coupable idéal à cette Maître Vulmin. C'est un tortionnaire trop beau pour être vrai, sadique à souhait, antisémite jusqu'au bout de la calache, mais avec le sens de la conversation mondaine et poussant parfois la chansonnette. Mais antisémite, sadique, ils le sont tous, insurge l'avocat. Les variations anarchiques des témoignages doivent donc inspirer le doute, soutient-il, pointant ainsi vers l'acquittement sans toutefois le demander.
Laura Martel. Contrairement à ce qui était prévu, les élèves de CM2 ne recevront pas en fin d'année scolaire le livre « La Belle et la Bête » illustré par Jules. Le ministère de l'Éducation a annulé, à la veille de la mise sous presse, la commande de quelques 800 000 exemplaires du conte traditionnel illustré par l'auteur de la série humoristique « Silex and the City ». Sans accompagnement pédagogique, je pense que ça n'est pas adapté, estime la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne. Son ministère estime aussi que le dessinateur représentait les personnages sur des réseaux sociaux, alors que ce classique est destiné à des élèves qui ne sont pas censés les utiliser avant l'âge de 13 ans. Le dessinateur dénonce, lui, un cas grave de censure.
La Belle, la Princesse, n'est à aucun moment sur les réseaux sociaux. Les deux communiqués de presse du ministère de l'Éducation nationale sont un tissu d'inexactitude et de mensonge. Dans les arguments qu'ils opposent, c'est les choses pour lesquelles précisément ils sont venus me chercher et qu'ils sont en train de désavouer aujourd'hui. Ce sont des prétextes pour autre chose, une censure qui cache son nom pour d'autres raisons, sans doute beaucoup plus honteuses, mais qu'on ne peut pas évidemment présenter, comme toutes les censures. Hein. Et effectivement, la seule chose qui distingue ce livre des autres livres de contes de fées qui peuvent circuler dans les écoles, c'est peut-être que les personnages, ce n'est pas des blonds aux cheveux longs qu'on m'envoie sur la place du marché à midi, le jour du dimanche à Versailles. C'est des gens qui ressemblent à la France d'aujourd'hui, qui ressemblent aux élèves de CM2 d'aujourd'hui, qui sont un peu plus mats, ils ont les cheveux bruns, ils ont les cheveux frisés. Et bien ça, qu'on ait l'air méditerranéen, napolitain, grec, libanais, algérien, et bien ça c'est intolérable pour un certain nombre de gens au ministère de l'Éducation nationale. C'est une France qu'ils ne veulent pas voir. Et le ministère de l'Éducation nationale, il faillit à sa mission. Et c'est une faute politique véritable que d'opérer ce genre de censure pour ce genre de raisons-là.
Jules, joint par Sophie Torlotin, RFI, 23h12 à Paris.
24 heures en France. Christophe Paget.
Un peu de légèreté. Nous avons maintenant rendez-vous avec la chanteuse franco-vénézuélienne La Chica, de son vrai nom Sophie Fustek. Elle est pianiste, chanteuse, compositrice. La Chica s'est faite connaître il y a 6 ans, en 2019, avec des musiques sur lesquelles on peut danser, c'est toujours agréable. Et elle est en ce moment en tournée en France, ce samedi à Saint-Étienne, dans le centre-est. Elle y présentera son dernier album, La Chica y el Duende Orquestra, traduction, La Fille et l'Orchestre des Lutins. Pour ce disque enregistré en formule acoustique, avec un petit orchestre de chambre, elle a travaillé avec le pianiste et compositeur Marino Palma, plus connu sous le nom d'El Duende, le lutin donc. La Chica est l'invité d'Edmond Sadaka.
Bonjour La Chica.
Bonjour.
Alors après avoir fait beaucoup d'électro sur votre premier disque, cette fois vous faites la part belle aux instruments acoustiques, piano, contrebasse et surtout aux instruments à vent.
Oui, complètement. Il y a entre autres une clarinette basse. Je suis amoureuse de cette texture. Effectivement, j'ai un premier album qui est électro, un deuxième qui est complètement piano-voix, beaucoup plus intimiste, très épuré, qui va à l'essence de la musique. Et réarranger avec un orchestre, c'est très excitant parce que c'est une énergie que j'avais jamais connue avant. Le fait d'être porté par des vibrations d'instruments organiques, je ne savais pas ce que ça faisait comme effet. C'est vraiment tout nouveau pour moi.
Vous avez vécu La Chica aussi bien au Venezuela qu'en France. Vous êtes installé dans le quartier parisien de Belleville. Ce sont deux sources d'inspiration différentes, j'imagine, pour vous.
Oui, clairement, il y a eu deux influences très fortes. D'une part, la manière de vivre la musique en Amérique latine, au Venezuela, une manière peut-être plus dansante, plus directe, dans la mesure où il y a de la musique partout. Dans les autobus, les gens chantent tout le temps et dansent partout. Et en même temps, à Belleville, il y avait une sorte de bouillonnement artistique. Je me souviens avoir vu énormément d'expositions faites avec ce que les artistes avaient sur place. Et c'est une chose qui m'a beaucoup marquée. À partir de ce moment-là, je me suis dit qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait. Et c'est une chose qui a influencé directement ma manière de faire de la musique. Même si j'ai pas tout ce qu'il faut avec moi sur le moment, ça n'empêche pas de composer, ça n'empêche pas d'enregistrer.
Solamente acepto el caos que lidera mi vida. Te caigo del cielo, ni siquiera sabes qué hacer conmigo. Esa brosura de mente que sientes como cosquilla. Traga todo lo que no sé.
Toutes les chansons de cet album ont pour point commun la langue espagnole. C'est beaucoup plus naturel pour vous d'écrire et de chanter dans cette langue?
Oui, c'est la langue des émotions, c'est la langue qui est liée à ma mère. Et c'est vrai que je crois que naturellement, quand je me mets à écrire des choses sur un carnet, des choses qui me viennent, eh ben, ça sort naturellement en espagnol et j'ai pas eu envie de casser cet élan intuitif. L'espagnol, c'est une langue qui a beaucoup de mots qui finissent en A, en O. Et naturellement, ça permet de projeter la voix plus facilement. J'ai besoin que ça sonne. C'est vrai que je parle très bien français et au moment où j'arriverai à écrire des choses en français qui tiennent la route, dont je suis satisfaite, je pense que je chanterai en français. Donc, j'ai lâché l'affaire pour l'instant, mais je suis absolument pas fermée au fait de chanter en français.
La Chica, merci.
Merci à RFI.
Sueños, rêve en espagnol, un titre de La Chica qui était interrogé par Edmond Sadaka. On s'intéresse maintenant au tourisme solo. Certains veulent partir bien accompagnés, d'autres accompagnés, d'autres partent seuls. Alors qui est attiré par ce type de tourisme? Quels avantages apporte le voyage en solo? Reportage de Mathias Troud au Salon Mondial du Tourisme à Paris.
Agence de voyage, office de tourisme, vendeur d'équipements, le Salon Mondial du Tourisme regorge d'idées pour les voyageurs.
J'ai déjà préparé ma valise, j'ai déjà mis mes deux maillots.
Dans son modeste stand, Didier Géano est un des spécialistes du tourisme en solo. Il travaille à l'association Aventure au bout du monde. Ses 1200 adhérents partagent astuces et bonnes adresses.
Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à partir différemment. Les jeunes, avant 30 ans, beaucoup de femmes aussi qui partent en solo parce qu'elles ont moins peur. Et quand on part en autonomie et en indépendant, en individuel, si vous voulez, ça permet aussi de concrétiser son voyage, de le préparer soi-même. Donc quand on ne connaît pas avec qui partir, le mieux c'est de se lancer tout seul dans l'aventure.
Maria a 22 ans, sac à dos sur les épaules, elle revient justement de son premier voyage en solitaire.
C'était trop bien, j'aimerais bien répéter. Je suis allée juste 2 jours, je suis partie à Milan. Je suis partie juste pour visiter la ville. Il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Je fais ce que je veux parce que je suis toute seule.
Hors des circuits balisés, la tendance du voyage solo peut sembler casse-cou. Pas pour cette quinquagénaire dynamique et ses 32 ans d'expérience en solitaire.
On ne drague pas, on fume pas et on ne boit pas. Et là déjà, ça va mieux. Quand on est dans sa pleine conscience, on apprécie aussi tout ce qui est autour de nous. On est tout le temps en observation. Et en même temps, quand il y a des rencontres, on se lâche complètement et c'est chouette.
Des rencontres, par exemple, en auberge de jeunesse ou lors d'une nuit chez l'habitant, quand on ne dort pas à la Belle Étoile. Ce sont autant de solutions pour ménager son budget et c'est plus facile en solo.
Ça ne coûte rien. Je suis allée, par exemple, au Ladakh, qui est un pays à 5000 mètres, au nord de l'Inde. Et ça m'a coûté, avec le billet d'avion, moins de 2000 euros pour un mois et demi, par exemple. Alors que les gens, ils vont au Ladakh pour 4 500, 5 000 euros pour 15 jours.
Philippe Mellul est un expert en la matière. Il a visité les 197 États indépendants du monde, souvent en solitaire. Il apprécie particulièrement les échanges culturels que ces conditions permettent.
Comme on est seul, on s'imprègne plus des contacts avec la population. On recherche le contact, donc on va plus vers les gens, mais les gens viennent plus vers vous aussi. Parce que quand ils voient un couple, ils se disent on va pas les déranger, alors que si c'est une personne seule, le contact se fait plus facilement.
Selon une étude menée par le Salon Mondial du Tourisme, près d'un voyageur sur 4 prévoit de partir seul cette année.
Un reportage signé Mathias Troud, RFI 18h19 à Pointe-à-Pitre.
Le journal des Outre-mer.
Et à la une du journal des Outre-mer aujourd'hui, les enseignants guadeloupéens mobilisés contre les suppressions de postes. Oda Nadji Ali, bonsoir.
Bonsoir. Jeudi noir dans l'éducation nationale en Guadeloupe, avec une trentaine d'établissements impactés par la grève des enseignants. Des grévistes mobilisés contre la suppression de 89 postes de professeurs prévus à la rentrée prochaine. Parmi eux, Armine Nibert, directrice d'école à Pointe-à-Pitre. On lui annonce 3 suppressions de postes dans son établissement.
C'est un jour spécial pour l'école en Guadeloupe aujourd'hui, puisque le nombre de suppressions de postes ne correspond pas à l'intérêt qu'on donne à l'école publique. Nous voulons retirer des postes alors que nous avons une situation très difficile en Guadeloupe, avec des enfants, des classes très hétérogènes, et en plus de ça, des écoles en réseau d'éducation prioritaire. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire l'économie sur le dos des enfants de la Guadeloupe. Il faut arrêter aujourd'hui de nous dire que tout ce qui est fait au rectorat de Guadeloupe est fait dans l'intérêt des enfants de Guadeloupe. Les suppressions de postes, il faut absolument les annuler, puisque les écoles ont besoin d'avoir plus de moyens, de matériel et de dispositifs pour mener les enfants de Guadeloupe à réussir véritablement. Puisqu'on ne veut laisser aucun enfant sur le chemin, le bas-côté, et bien pourquoi on nous retire autant de postes? À l'école Amédée Fangaol, il y a 3 postes de supprimés. Vous imaginez la rentrée de l'année prochaine, c'est impensable.
Des propos recueillis par François-Joseph Ousselin. Le groupe Bernard Ayot dénonce des attaques injustifiées après l'annonce de l'enquête de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, enquête ouverte après une plainte de Transparency International France. L'ONG dénonce les activités de lobbying du groupe martiniquais, groupe régulièrement pointé du doigt pour ses marges jugées excessives. La journée mondiale de lutte contre l'endométriose se prépare en Martinique. Un village de sensibilisation se tiendra au Diamant dimanche. Une initiative du collectif Les 20972. L'endométriose touche une femme sur 10 en Martinique et la prise en charge évolue trop lentement, regrette Aurélia Franck, la responsable des 20972, au micro de Grégory Gabour.
Ça avance, mais on est encore loin, en fait, d'arriver à obtenir aussi assez de médecins sur le territoire pour nous aider. En fait, c'est ça la problématique, c'est qu'on n'a pas assez de gynécologues et de médecins compétents dans ce domaine-là pour nous soutenir, pour soutenir ces 20 000 femmes et les aider et les accompagner.
C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi diagnostiquer, ne serait-ce que l'endométriose?
Oui, il y a une errance de diagnostic. Alors, c'est une maladie avec de nombreux symptômes très différents les uns des autres. Et la plupart du temps, les pièces du puzzle ne se réunissent pas.
Expliquer.
Je ne sais pas, il y a une méconnaissance de la maladie. Pourtant, c'est une maladie qui a été découverte dans l'Antiquité, qui a été nommée en 1851. Et pour autant, ça fait 6-7 ans qu'on s'en préoccupe.
C'est quoi? C'est de la négligence? C'est de l'ignorance?
Oui, je pense qu'il y a une banalisation de la douleur des femmes par rapport aux règles, à l'enfantement, à tout ça, en fait. Et que du coup, notre parole n'est pas entendue, en fait. Quand on se présente chez un médecin en disant qu'on a des symptômes, on n'est pas entendu dans cette douleur. Elle est banalisée.
À La Réunion, l'épidémie de chikungunya continue de progresser. 8600 cas signalés depuis le début de l'année. Aucune commune de l'île n'est épargnée par cette maladie vectorielle transmise par le moustique. Le préfet de La Réunion a activé le niveau 4 du plan Orsec, épidémie de moyenne intensité. Et puis, mauvaise nouvelle pour la culture en Nouvelle-Calédonie. L'association de formation des musiciens intervenants baisse définitivement le rideau. Les 8 antennes du conservatoire de musique cessent leur activité faute de subventions. Près de 2300 élèves et 29 personnels sont concernés sur l'ensemble des antennes décentralisées à Koumac. Dans la province Nord, Géraldine Louis a rencontré des parents très déçus.
Ça me met en colère parce que déjà dans le Nord, on est assez délaissé, voire oublié sur plusieurs domaines. Là, niveau culturel, il nous reste que la médiathèque. Je sais que c'est malgré les événements de mai l'année dernière, il y a un problème de financement dans beaucoup de domaines. Mais je sais pas comment sont répartis les budgets, les différentes enveloppes. Mais niveau culturel, il faut faire quelque chose. Sur Nouméa, il y a beaucoup de choses qui sont encore debout. Et le Nord, comme d'habitude, on est toujours oublié ou délaissé.
Je suis vraiment déçue. Mes enfants adorent la musique, du coup je suis vraiment déçue.
Vraiment, moi je suis, je comprends pas, c'est de l'incompréhension, c'est pas possible quoi.
Dans le sud, oui, et dans le nord, non. Pourquoi ? Moi, j'ai vu que ma fille, elle s'est vachement transformée. La musique l'a fait grandir. Moi, j'ai jamais vu ma fille aussi rigoureuse, aussi concentrée.
Des propos recueillis par Géraldine Louis. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée.
Merci Odin Gieli. Très bonne soirée à vous.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Ce soir, la question que se pose le Conseil Santé nous concerne tous, enfin une partie d'entre nous. Peut-on comparer une rupture amoureuse à un état de deuil ? Laurence Garcia nous en parle avec son invité.
Bonjour, docteur Christian Zagzik.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et psychothérapeute à Paris, auteur du livre « Cœur brisé, relations amoureuses tourmentées » aux éditions d'Il Jacob. Première question, on dit souvent qu'une rupture amoureuse, c'est comparable à un état de deuil. Ça se vérifie d'un point de vue psychique ou c'est un cliché ?
Non, c'est pas vraiment un cliché. En fait, c'est pas très éloigné. La grande différence, c'est qu'entre la rupture amoureuse et le deuil, c'est que dans le deuil, l'objet est perdu définitivement. La personne aimée est perdue définitivement, donc on ne pourra plus la rencontrer dans le réel. Alors que dans le chagrin d'amour, on peut toujours rencontrer à nouveau l'objet amoureux, même quelques jours, quelques années, voire parfois, j'ai vu, 30 ans plus tard.
Quand est-ce que, parce qu'on sait souvent qu'on passe parfois par des états plutôt dépressifs, mais à quel moment il faut vraiment consulter ou être accompagné pour éviter une vraie dépression ?
Eh bien, quand ça dure, quand on commence à perdre l'élan vital, quand on commence à vouloir s'isoler, à ne plus voir les gens, et que ça prend une tournure effectivement dépressive, mais qui dure et qui n'est pas transitoire. Parce qu'effectivement, après une rupture amoureuse, c'est normal d'être triste.
Triste, colère, culpabilité, angoisse.
Un mélange entre la tristesse et la colère, ça peut switcher d'une émotion à l'autre. Il y a toujours la coexistence des deux émotions.
Des émotions qui nous renvoient peut-être aussi à notre propre histoire personnelle, en fait.
Qui renvoient à l'enfance, parce qu'on peut voir chez un enfant, la colère peut alterner avec la tristesse, les pleurs.
Merci pour ces quelques conseils, docteur Christian Zagzik. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Cœur brisé et relations amoureuses tourmentées, avec plein de conseils très pratiques. On en reparlera aux éditions Odile Jacob. Le Conseil Santé, c'est bien sûr à réécouter sur notre appli Pure Radio. Dans Priorité Santé, tout autre sujet, on parlera de la santé bucco-dentaire.
Et ce sera une heure distant universelle. Merci Laurence Garcia. C'est bientôt la fin de 24 heures en France. Merci à Fabrice Viollet à la réalisation et Mickaël Ponge à la rédaction en chef. Dans quelques instants, Afrique Soir. Mais maintenant, place à la Bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones cède 11 petits points et revient à 41 953. L'indice du Nasdaq recule de 59 points et clôture à 17 692. Les nouvelles de la conjoncture américaine sont plutôt meilleures que prévues, ce qui, paradoxalement, est interprété comme une raison de plus pour la Réserve fédérale d'attendre d'y voir plus clair sur les effets des baisses d'impôts et des hausses de droits de douane qui se préparent à Washington avant d'abaisser son taux directeur. Le nombre de reventes de maisons anciennes en février aux États-Unis grimpe de plus de 4%. On attendait au contraire un recul. Les prix immobiliers continuent de grimper aux États-Unis, mais le nombre de propriétés à vendre grimpe. Par ailleurs, on apprend que le nombre de demandes initiales hebdomadaires d'indemnisation chômage augmente à peine. Les suppressions d'emplois dans la fonction publique fédérale ne se traduisent pas par une dégradation soudaine du marché de l'emploi pour le moment. L'intensification des bombardements américains sur les Houthis au Yémen et les nouvelles sanctions contre l'Iran contribue à faire grimper les cours du pétrole. Le baril américain de brut gagne près de 2% à plus de 68 dollars. L'euro retombe à 1,0854. On note la forte baisse du cours d'Accenture. La société de consultants souffre de l'annulation de plusieurs contrats avec le gouvernement fédéral américain. Belle hausse en revanche pour Allstate. L'assureur fait part de pertes sur catastrophes nettement moins élevées que prévu au mois de janvier. L'indice Dow Jones rend moins de 0,1%, le Nasdaq cède 0,3%.
Merci Pierre-Yves Dugas. Sachez aussi qu'en France, investisseurs et entreprises du secteur de la défense étaient réunis ce jeudi à Bercy pour trouver des moyens de mieux financer le secteur. Les besoins estimés vont jusqu'à 5 milliards d'euros pour cause d'évolution de la position américaine vis-à-vis de l'Ukraine et de menaces russes. Le ministre de l'économie annonce le lancement d'un nouveau fonds auquel les Français pourront contribuer. Objectif, collecter 450 millions d'euros.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Née à Port-au-Prince, où elle a grandi sous la dictature du Valier, Jean-Gilles Dominique a dû quitter son île natale pour s'installer il y a 20 ans au Québec. Pourtant, Haïti reste toujours au cœur de ses romans, à l'image du nouveau intitulé « Tu nous manques », un message d'amour aux disparus.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI. L'épopée des musiques noires.
Le chanteur belge David Links a fêté son 60e anniversaire en accueillant en studio d'éminents musiciens afro-américano-caribéens. Il nous présente l'album Real Men Cry, avec lequel il promeut la bonté, l'écoute et le partage. Sa relation privilégiée avec l'écrivain américain James Baldwin, il y a 40 ans, a affirmé son engagement personnel et ses convictions. Rendez-vous dans l'épopée des musiques noires avec Joe Farmer, samedi à 13h30 TU.
RFI.